Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute. Bienvenue, tu écoutes l'épisode 7 de Post Boost, comment cultiver ton sentiment d'efficacité personnelle. C'est la rentrée, je suis motivée, j'ai toujours les mêmes compétences et je me suis reposée. Et pourtant, je ne me sens déjà pas ou plus capable, pas ou plus efficace. Je suis sûre que tu as eu cette pensée dans les dernières semaines qui viennent de se dérouler. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est une dimension cruciale dans la réussite, c'est un déterminant important pour avoir la motivation à agir. Ton SEP te booste ou te perturbe, ton SEP te fait te sentir bien, apaisé, sereine ou tout l'inverse. Aujourd'hui, je vais t'en dire plus sur le sentiment d'efficacité personnelle et comme d'habitude, je te donne 4 clés pour avancer. C'est quoi le sentiment d'efficacité personnelle? C'est un concept qui a été développé dans les années 80 par Albert Bandura, qui est un psychologue social canadien. Et ce concept, depuis, il a fait l'objet de nombreuses études dans plusieurs domaines, la scolarité, le travail ou même la psychothérapie. Pour Albert Bandura, si les gens ne sont pas convaincus qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'ils souhaitent grâce à leur propre action, ils auront peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. Le sentiment d'efficacité personnelle ne consiste pas seulement à savoir ce qu'il faut faire et être motivé pour le faire, c'est un mix de compétences cognitives, sociales, émotionnelles et comportementales qui doivent être organisées et mises en place efficacement pour servir tes actions. Se sentir efficace, c'est croire dans sa capacité à réaliser une tâche, un défi ou un changement avec succès. C'est se croire capable d'exercer un contrôle sur les événements par plusieurs leviers. Tes ressources, c'est-à-dire tes compétences, tes aptitudes et le temps que tu peux accorder à une tâche. Ta motivation, ta capacité à la mettre en route et surtout à l'entretenir. Et enfin, ton plan d'action. Ta capacité à te fixer des objectifs et à t'auto-réguler pour les atteindre. Depuis les années 80, de nombreuses recherches ont montré que si on ne se pense pas capable de produire des résultats à travers nos actes et nos actions, ben finalement, on ne se lance jamais, on n'avance pas, et quand on s'est lancé, on a toujours la sensation de ne pas être à la hauteur. Alors même si c'est proche, le SEP est une dimension à part de la motivation et de l'estime de soi. Tu sais que j'aime les exemples, alors en voici un. Je suis tout à fait capable de concevoir, monter et diffuser cet épisode de podcast. Et pourtant, je n'ai pas diffusé d'épisode depuis plus d'un mois. Mon sentiment d'efficacité personnelle est plutôt en berne sur ce volet. Ma motivation, elle était ailleurs. C'était de prendre des vacances en totale déconnexion et de préparer sereinement l'entrée en CP de mon fils. Donc, mon sentiment d'efficacité personnelle est faible. Ma motivation, elle est quand même là. Et aussi, mon estime de moi va bien. Conclusion, c'est juste mon SEP qui est faible. Donc, je me crois moins capable de concevoir, monter et diffuser cet épisode. Pour faire simple, plus ton SEP est élevé, plus tu te crois capable de réaliser une tâche. Et plus ton SEP est faible, moins tu te crois capable de réaliser une tâche. Alors, le SEP est-il général ou spécifique? En fait, il est spécifique à un domaine. Dans les faits, on ne se sent jamais capable ou efficace d'une manière générale, mais dans un domaine précis. Reprenons mon exemple. Mon SEP est faible pour la création de cet épisode, mais mon SEP est fort pour accompagner mon fils dans la découverte et l'apprentissage de la lecture. Pourtant, je n'ai pas du tout les 3 leviers dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le levier 1, c'était mes ressources, mes compétences et le temps que je peux accorder à cette action. Alors, niveau compétences, comment dire, franchement, la méthode des alphas choisie par l'école, je ne connais pas du tout et je ne suis pas du tout compétente sur le sujet. Niveau ressources temporelles et mentales, non plus. La pédagogie et la zénitude nécessaires pour le temps des devoirs entre 18h30 et 19h30, franchement, je ne l'ai pas. Mais sur 2 autres points, je suis au top. Le levier 2, c'était celui de la motivation. Et là, je l'ai, parce que je me rappelle encore, moi, en CP, quand j'apprenais à décrypter les mots, que j'essayais de lire le moindre panneau ou tout texte qui passait devant mes yeux. Et puis, objectivement, j'ai envie d'accompagner mon fils dans cette découverte et cet apprentissage. Le levier 3, le plan d'action, ben là, franchement, je suis au top. Il est fait par la maîtresse, donc je le suis et je ne me questionne même pas. C'est elle l'experte, elle sait, donc je la suis. Le SEP, alors, est-ce qu'il est figé ? Pas du tout. Mais pour le faire évoluer, il faut comprendre comment il se construit et aussi comment il évolue. Le SEP, finalement, il est très lié à la manière dont tu vas interpréter tes actions et comment tu vas expliquer tes réussites, mais aussi tes échecs. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale la théorie de l'attribution causale. Alors, c'est un nom compliqué, mais finalement, c'est comme toujours assez simple. On attribue des causes à nos succès ou nos échecs selon trois pôles. Et je vais te prendre un exemple. On va penser à Louise, qui est recruteuse en ce moment et qui a quelques difficultés pour trouver un commercial. Alors, la première cause possible aux difficultés de Louise, ce serait d'attribuer la cause de cette difficulté selon le premier pôle, stable ou instable. Elle pourrait se dire « je n'arrive pas à réaliser ce recrutement parce que je suis nulle en recrutement depuis toujours et pour toujours ». C'est une attribution stable. Ou alors, elle pourrait se dire « je n'y arrive pas car je n'ai pas assez de temps ». Elle ferait une attribution sur le côté instable. Le deuxième pôle par lequel Louise peut analyser ses difficultés, c'est côté global ou côté spécifique. Je n'ai pas réussi à trouver des candidats pour ce recrutement car je suis nulle en sourcing. Elle ferait une attribution globale. Et je ne maîtrise pas bien le booléen, mais j'ai tenté et je n'ai pas cherché autrement. Du coup, c'est pour ça que je suis en difficulté. Elle ferait une attribution plutôt spécifique. Le troisième pôle qu'elle pourrait utiliser pour expliquer et analyser tout ça, ce serait le côté interne ou externe. Louise, par exemple, au fur et à mesure de ses difficultés, elle pourrait arriver à se questionner globalement sur son poste et sur sa carrière de recruteuse. Elle pourrait se dire « tiens, j'ai été embauchée parmi plusieurs candidats pour ce poste de recruteuse parce que j'ai su être convaincante ». Elle ferait une attribution interne liée à elle. Ou parce que, finalement, personne ne voulait de ce poste et elle aurait fait une attribution externe. Tout ça pour dire que ta manière d'interpréter les causes de tes actions, de tes réussites et ou de tes échecs, ça va avoir un impact plus ou moins fort sur ton SEP. Il faut donc travailler son état d'esprit. Ça aussi, c'est une autre notion importante dans le SEP, l'état d'esprit. Parce qu'un SEP faible, ça arrive à tout le monde, mais ça va devenir un vrai frein si tu as tendance à penser tout le temps que les choses sont stables et immuables. Dans notre exemple, par exemple, que Louise, elle pourrait se dire « je suis nulle en recrutement, je suis nulle en sourcing et ça ne changera jamais », comme si c'était un état statique. Mais si tu te dis que finalement, la notion d'aptitude, c'est quelque chose que l'on peut acquérir, que l'on peut apprendre, et que souvent tes résultats ne sont pas uniquement de ta responsabilité, comme dans le recrutement par exemple, cela va t'aider à envisager les choses sous un autre angle. Alors moi aussi, des fois, j'ai cette emmerdeuse qui me susurre dans les oreilles. Mais bien sûr, Aurélie, que c'est toi qui déraille. Mais tu es naze, tu t'organises mal, tu n'appliques pas la bonne méthode ou tu changes constamment de méthode. Tu te laisses submerger par tes émotions. Tu aurais dû dire ça et bla, et bla, et bla. Bref, tes échecs sont peut-être liés à plein de choses. Un manque d'effort de ta part, peut-être. Un investissement trop fort sur une chose au détriment d'une autre. Des objectifs trop élevés, un plan d'action mal préparé, un manque de communication avec tes équipes ou tes managers, et j'aurai plein d'autres raisons à te lister. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as une marge de manœuvre et tu as tout intérêt à cultiver ton SEP. Pourquoi ? Parce que d'abord, tu vas développer ta capacité de persistance. Tu ne vas pas forcément faire plus d'efforts, mais tu vas faire les efforts dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Et tu vas arrêter de courir un peu comme un poulet sans tête, sans savoir pourquoi tu cours au fait. Tu vas aussi accueillir et comprendre tes émotions de manière différente. Alors je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine sur ce sujet des émotions, parce que je vais accueillir Véronique Souchon, qui est sophrologue et coach, et qui a développé une méthode hyper intéressante pour réconcilier les trois C. Le cerveau, pour déjouer les pièges qu'il nous tend, le cœur, pour comprendre nos émotions, et le corps, pour l'écouter et le mettre en action au bon moment. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à PostBoost sur ta plateforme d'écoute et comme ça, tu seras au courant de la prochaine sortie de l'épisode de Véronique. Alors, revenons à notre fameux SEP. Non seulement, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, le SEP, il est spécifique à un domaine, mais il se travaille. Comme toujours, je ne te laisse pas dans le flou artistique. Voilà comment tu peux cultiver ce fameux SEP. Voici les quatre clés de la semaine. Clé numéro 1, la performance. Alors tu vas me dire... Non mais franchement Aurélie, tu abuses. Déjà que mon SEP est au plus bas en cette rentrée, tu me parles de performance. Je ne me sens déjà pas au plus capable et pas au plus aussi efficace qu'avant l'été. Alors juste, mon propos c'est détends-toi et ajuste tes objectifs. En fait, l'idée c'est d'accumuler les succès et les sentiments de satisfaction. Tu peux décomposer ce que tu dois faire en des tâches de moindre importance. Tu peux te fixer des objectifs simples, réalistes et réalisables. Et pourquoi tu devrais faire ça ? Parce que tu vas accumuler des petites victoires petit à petit. Tu vas pouvoir ajuster ton plan d'action au fur et à mesure et tu vas voir que tu vas te sentir de plus en plus efficace. Alors septembre, c'est souvent le moment où on se dit « Tiens, je vais m'inscrire dans une salle de sport en mode illimité ». Alors franchement, je l'ai tenté à plusieurs fois, en septembre, en janvier, ça n'a jamais marché. Tout simplement parce que je faisais plus de sport depuis des lunes et finalement, s'inscrire en mode illimité, c'est le meilleur moyen de ne jamais rien faire. Dis-toi plutôt, je vais faire ce cours une fois par semaine sur les prochains mois. Tu ajoutes ce créneau à ton agenda et tu préviens ta moitié que le jeudi, de 19h à 20h, tu seras au sport. Alors rien ne t'empêche de rajouter une séance, mais si, et uniquement si, au bout de 3 mois, tu as réussi à atteindre ton objectif. Tu as vraiment fait une séance tous les jeudis de 19h à 20h. Et tu ajusteras au fur et à mesure. Si tu es manager, pense-y aussi pour tes équipes. Les objectifs macro, c'est bien, ça donne la destination, mais ça ne donne pas les étapes. En fait, un projet, c'est un peu comme un GPS. Il faut fixer des étapes et des échéances réalistes et réalisables. Et il faut aussi que tu fasses des points réguliers avec ton équipe. Pourquoi ? Parce que ça va faire tout à fait le lien avec la deuxième clé qui va booster ton SEP, c'est ce qu'on appelle la persuasion sociale. Ce sont tous les commentaires sur tes performances par des personnes qui sont importantes pour toi. Alors, ta moitié qui te soutient, c'est top, hein, mais ce n'est pas suffisant. Il te faut un ou une alliée, quelqu'un qui est important à tes yeux et qui va te faire un retour spécifique, pertinent et réaliste. Ça peut être un collègue, un père qui travaille dans un autre secteur ou qui travaille dans le même secteur que toi, qui occupe la même fonction que toi. Et c'est surtout une personne qui va être honnête avec toi, qui sera capable de te donner des feedbacks positifs comme négatifs. Alors j'imagine que tu fais déjà le lien avec tes équipes. Ben, c'est ce qu'elles attendent aussi de toi, des feedbacks réguliers et pas uniquement lors de l'entretien annuel d'évaluation. Alors la clé suivante, attention, le terme pique un peu. La clé numéro 3, c'est l'expérience vicariante. Alors, c'est tout simplement de dire, en observant et en se comparant à quelqu'un qui réalise une tâche qui est un vrai défi pour toi. Alors, je te vois venir, hein, si on reprend l'exemple du fitness, ne te compare pas aux accros du fitness qui font un cours par jour, week-end compris. Tu dois trouver une personne qui te ressemble, parce que plus elle va te ressembler, plus l'effet vicariant va fonctionner. Alors oui, vicariant, ça veut simplement dire qui ressemble et qui se substitue à quelque chose. Dans tes équipes, par exemple, tu peux proposer de créer des binômes ou un système de paramarraine, par exemple, pour favoriser cette expérience vicariante. Donc, on a vu les 3 premières clés que tu peux activer pour faire évoluer ton SEP. C'est la performance, la persuasion sociale et l'expérience vicariante, c'est-à-dire la comparaison avec autrui. Voici la dernière clé, les états émotionnels et physiologiques. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'interpréter les différents états dans lesquels tu vas être au cours d'une journée. Pourquoi tu es excité, pourquoi tu es agacé, pourquoi tu es blasé, pourquoi tu es blessé, par ceci ou par cela. Moi, j'ai longtemps cru qu'il suffisait de réprimer et de faire taire ces émotions, mais franchement, j'avais tout faux. Si tu bouillonnes toute la journée, si tu comprimes tes émotions, cela va avoir de sérieuses conséquences sur ton SEP. Pourquoi ? Parce que tu as le duo gagnant. Tu es en stress, tu as la sensation que tu ne contrôles plus rien et boum, tu ne te sens plus capable et ton SEP est au plus bas. Mais à l'inverse, si tu arrives à accueillir tes émotions, à les accepter et à les comprendre, tu vas éprouver plus de plaisir et ton SEP va grimper en flèche. Alors clairement, je ne suis pas une experte sur cette dernière clé, celle de la gestion des émotions et du stress. Mais pas de panique, je te l'ai dit, dans le prochain épisode, j'accueille Véronique Souchon. On se connaît très bien, elle m'a et m'aide toujours beaucoup sur ce sujet. Et je la reçois dans l'épisode 8, lundi prochain. On va parler sophro, 3C et bulles. Je t'en dis pas plus. Alors, conclusion, c'est normal d'avoir un SEP moyen, voire faible à certains moments de l'année. Mais normal ne signifie pas que c'est immuable et que c'est statique. Alors, si tu dois retenir 3 trucs de cet épisode, c'est que 1. Le SEP est spécifique à un domaine, que le SEP se travaille et que le SEP est très lié à l'acceptation et à la compréhension de tes émotions. Comme à chaque fois, je vais te glisser quelques ressources dans les notes de l'épisode sur le SEP et sur l'attribution causale. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi.